Comment être témoin d'espérance quand on est élu local?
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
Jean-Luc Moudin, vous êtes maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. Merci d'avoir accepté mon invitation à l'occasion du traditionnel radio-don de Radio Présence. Quelques mots pour commencer sur l'espérance qui est le thème choisi pour ces trois jours particuliers. Dans une société de plus en plus violente, face aussi aux difficultés pour les élus locaux d'être soutenus dans leur mission, qu'est-ce qui nourrit, monsieur le maire, votre espérance?
Ce qui nourrit mon expérience, ce qui nourrit mon espérance, c'est d'abord la passion de ce que je fais, la passion de ce que je crois. Au fond, c'est aller de l'avant. L'espérance implique une notion d'avenir, une notion de projection vers l'avenir. Et c'est le contraire de l'espérance, c'est au contraire la tendance qu'on peut avoir à un moment de se recroqueviller sur des difficultés, sur des douleurs, sur des choses qui sont difficiles à vivre. Simplement, voilà, l'espérance, elle nous invite à dépasser cela, à regarder demain, après-demain. Donc c'est un moteur, l'espérance, et c'est nécessaire dans la vie, quelle que soit la position qu'on occupe dans la vie sociale, quoi que l'on fasse, l'espérance et l'avenir, en fait.
L'espérance et l'avenir. Plus généralement, quel rôle pensez-vous qu'un élu local doit jouer pour transmettre l'espérance à ses concitoyens?
D'abord, le rôle de l'élu, dans un moment qui est difficile, dans une période qui est compliquée, c'est de donner un cap. Donc on voit déjà une parenté entre la notion d'espérance et le rôle de l'élu. Le rôle de l'élu, certes, c'est de gérer, autrement dit d'être présent dans l'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la gestion du quotidien, ça c'est indispensable. Mais son rôle est de voir plus loin. Je dis souvent que l'élu doit être au four et au moulin, c'est-à-dire présent dans des petites choses, du moins qui peuvent paraître petites, mais qui pour les gens peuvent peser beaucoup dans leur vie de tous les jours.
Dans le quotidien.
Et en même temps, il doit impulser des projets, doit imaginer le territoire dont il est élu dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et même au-delà. Alors c'est vrai que la tâche d'élu, et j'en parle en connaissance puisque j'ai la chance d'être élu depuis longtemps, la tâche d'élu est difficile, elle est même de plus en plus difficile, il y a des contraintes de plus en plus fortes sur le plan financier, on en parle beaucoup en ce moment.
Et nous allons en parler après, oui.
Il y a des contraintes aussi réglementaires, et puis il y a des contraintes, je dirais, sociétales. Par exemple, les réseaux sociaux, ils attaquent les élus de manière anonyme. Mmh. Les élus, par définition, ne sont pas anonymes, puisqu'ils sont...
Ils sont publics, ce sont des personnes publiques.
Des hommes publics. Mmh. Mais par contre, l'anonymat des réseaux sociaux est quelque chose de terrible, qui nous met comme une cible tous les jours. Voilà. Bon, alors tout ça, c'est effectivement des complications, des lourdeurs, des obstacles. Certains d'entre nous, d'ailleurs, peuvent baisser les bras.
Mmh. Et votre vice-présidente à Toulouse Métropole, Karine Traval-Michelet, disait que nous, élus locaux, sommes trop souvent esselés et manquons de moyens pour répondre aux attentes. Donc il y a aussi cette question de la solitude, peut-être.
Oui, la solitude, je la relirai sans doute effectivement à une complication générale du rôle des élus et de la manière dont fonctionnent les collectivités. Mais au-delà, la solitude tient aussi, il faut le dire, même si je ne vais pas me faire applaudir par les auditeurs en disant ça, elle tient aussi au fait que les citoyens ont un regard souvent de plus en plus critique sur les élus. Parfois, ils font des amalgames, ils sont parfois très exigeants. Il y a aussi, disons-le franchement, une montée de l'hyper-individualisme qui fait que quand il y a un problème, on cherche un coupable, un bouc émissaire, et l'élu, par définition, qui est là, c'est le bouc émissaire tout trouvé,
oui. Oui. Depuis plusieurs années, monsieur le maire, vous nous faites l'honneur de votre participation lors de notre radio-don. Et j'avais cette petite question sur la laïcité, à l'heure où la laïcité des libres penseurs veut réduire la place des religions dans la société. Comment une radio chrétienne comme Radio Présence trouve-t-elle sa place dans le paysage médiatique de notre région?
D'abord, je trouve que Radio Présence l'a bien trouvé, cette place, justement. C'est-à-dire que Radio Présence n'est pas enfermée sur elle-même, elle fait vivre, bien sûr, un message chrétien, une identité chrétienne, et c'est tout à son honneur, parce que c'est plus difficile, cela, aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 50 ans, la société a beaucoup changé. Mais en même temps, j'observe, et je crois que c'est un très bon choix, que Radio Présence ne cesse de s'ouvrir à la société telle qu'elle est aujourd'hui, et pas forcément à des entités ou des figures chrétiennes. Et donc cette capacité à être soi-même, mais aussi à être dans l'ouverture et le dialogue en permanence, en prise avec les problèmes d'aujourd'hui, avec l'actualité toulousaine ou autre, je crois que c'est le bon choix.
La radio chrétienne dans le monde. Alors nous en parlions au début de cet entretien, Jean-Luc Moudingue, du 18 au 21 novembre se tient à Paris le 106e congrès des maires et des présidents d'intercommunalité de France. Le thème de ce congrès est « Les communes, trois petits points, heureusement ». Est-ce que vous n'y voyez pas un anachronisme avec l'effort budgétaire demandé aux communes dans le cadre du projet de loi de finances 2025?
Alors en réalité, c'est quelque chose qui a été, c'est un slogan, c'est une thématique qui a été choisie avant.
Mais oui, on s'en doute bien.
L'annonce du budget et pour dire que dans le monde actuel, avec tout ce qu'on disait tout à l'heure, le maire était un repère, la mairie était un repère de proximité auquel les Français sont extrêmement attachés. Donc heureusement que nous sommes là, heureusement qu'il y a les mairies et les maires. Mais après, il y a eu effectivement, à partir du 9 octobre, le choc qu'a constitué l'annonce du budget 2025 avec un effort inédit que l'État nous demande, une ponction financière considérable qui nous met à mal. Et la question s'est posée de savoir si l'Association des maires de France maintenait ou pas, au fond, ce slogan plutôt positif. Et on a décidé que oui. On a décidé que oui, parce que justement, on veut envoyer un signal positif. On ne veut pas que, parce qu'il y a des problèmes difficiles et lourds, ça plombe tout et que qu'on offre, au fond, une perspective pessimiste nous-mêmes. Donc, la traduction du fait qu'on a maintenu cet heureusement, c'est de dire, oui, il y a des difficultés, on en parle, on proteste, et en même temps, on va trouver des solutions. Et nous voulons en particulier trouver des solutions avec le gouvernement, c'est-à-dire par le dialogue. Alors, évidemment, on a tout suivi ce qui s'est passé. M. Barnier a été nommé très très tard, sans doute trop tard. Il a trouvé une situation beaucoup plus grave que ce qu'il pensait sur le plan de la dégradation des finances publiques. Compte tenu des obligations de la Constitution, il a été obligé de préparer en quelques jours une copie budgétaire pour le budget de la France. Ça ne s'est jamais produit. Et donc forcément, il n'a pas dialogué. Il n'a pas dialogué avec personne, il n'a pas dialogué avec nous. Donc on le lui reproche parce que nous, on veut le dialogue. On comprend.
Et parce que l'annonce est violente.
Ne lui est pas permis de le faire. Ce qu'on veut, c'est que maintenant qu'il a annoncé les choses, le dialogue soit là et le dialogue soit encore plus là pour les années 2026, 2027, 2028, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a une ponction très forte qui est préparée pour 2025, mais ça ne va pas s'arrêter à 2025.
Alors c'est vrai que pour Toulouse, Toulouse va subir une perte de recettes estimée à 70 millions d'euros, 45 pour la métropole et 25 millions pour la mairie de Toulouse. En quoi cet effort est-il particulièrement inédit, monsieur le maire ?
Il est inédit parce que la fois d'avant, dirais-je, où on avait été ponctionné comme jamais, c'était en 2015-2016, sous la présidence de François Hollande, on nous avait baissé les dotations, c'est-à-dire ce que l'État nous donne en compensation de ce qu'il nous a retiré, parce que l'État ne cesse depuis toujours d'enlever des impôts, mais d'enlever des impôts qui vont dans les caisses des autres, c'est-à-dire des élus. Et donc il met en œuvre ce qu'on appelle des compensations financières, qu'on appelle les dotations. Le seul problème, c'est que les dotations, elles ne sont jamais équivalentes à ce qu'on nous a enlevé. Donc on avait à l'époque eu ce choc, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus important. C'est trois fois plus. C'est concentré sur les grandes villes, sur les métropoles et sur les départements, les régions aussi. Les petites communes, les petites collectivités sont plutôt épargnée, du moins elle contribue moins. Et donc effectivement, pour nous, c'est 70 millions de moins au 1er janvier prochain. Mmh. Donc on est en train de... On a pris des mesures d'urgence, notamment le gel des recrutements, du moins sur le principe. Et puis avec les collègues, on va pendant quelques mois réfléchir, on va passer en revue toutes nos dépenses, regarder si on peut faire des économies, c'est jamais facile, surtout en si peu de temps, et on va surtout en fait reprioriser toutes les actions que nous avons prévues d'ici la fin du mandat, d'ici 17 mois, on va réfléchir à nouveau pour dire, bon, cette action-là, elle est urgente, elle est prioritaire, on la maintient, celle-là, elle est un petit peu moins, cette autre, elle peut être repoussée à plus tard, voilà, on va faire tout ce travail pour reprioriser l'action et faire en sorte que nos dépenses rentrent dans le format réduit des recettes que nous aurons disponibles.
Vous indiquez lors de votre conférence de presse du 14 novembre qu'il y avait des secteurs budgétaires qui seront sanctuarisés. Quels seront-ils ?
Alors, par exemple, pour la métropole, le premier budget de la métropole, grosso modo, c'est 400 millions. C'est ce qu'on appelle des reversements aux communes. C'est une sorte de solidarité. Évidemment, je ne vais pas mettre mes collègues en difficulté. Mmh. Donc, je souhaite que là-dessus... on ne touche pas à l'enveloppe financière prévue. L'autre priorité qui concerne tout le monde, c'est la mobilité. Nous sommes une des agglomérations françaises les plus dynamiques, qui se développent le plus, donc il y a de plus en plus de besoin de se déplacer. Donc on a mis en œuvre un projet avec pas mal d'investissements, davantage de lignes O, prolongation de la ligne B du métro, après avoir doublé la ligne A, évidemment construction de la ligne C, et puis il faut imaginer ce qu'on fera après la ligne C du métro. Et donc, effectivement, ce sont des crédits qui pèsent lourd, qui vont peser d'ailleurs de plus en plus lourd dans nos budgets au cours des années à venir. J'ai décidé de les maintenir parce que c'est l'enjeu prioritaire du quotidien. Mmh. Ce qui fait que, effectivement, une fois que j'ai dit ça, vous mesurez davantage encore la complexité de l'exercice auquel nous sommes contraints. Et donc, 3 mois ne seront pas de trop pour que l'ensemble des élus collectivement mobilisés, tous ceux qui ont des responsabilités à la métropole ou à la mairie, on identifie des marges d'économie et des décalages dans le calendrier des réalisations qui n'impactent pas les Toulousains. Voilà, notre boussole, c'est les Toulousains, les habitants de la ville, les habitants de la métropole. Il faut que nos décisions les impactent le moins possible, les gênent le moins possible. Il faut que les services publics soient assurés, parce que c'est un besoin quotidien. Sans doute faut-il peut-être modifier tel ou tel exercice d'un service public. Sans doute faut-il faire autant, voire plus, avec moins. Ça ne se fait pas avec un coup de baguette magique, chacun le comprend.
Ça va être un gros défi.
Nous avons l'obligation d'y réfléchir, même si c'est compliqué.
Pour terminer, monsieur le maire, il y a cette ultime intervention qui va clôturer le vaste chantier de rénovation lancé en 2017 de la basilique Saint-Sernin. Ce sera la réalisation d'un vitrail qui va orner la rosace en surplomb de la grande entrée de la basilique. Le choix d'un vitrail contemporain a été fait. Quelques mots sur ce projet ?
Alors effectivement... Moi, j'ai une grande ambition pour Saint-Sernin, donc on a multiplié les travaux de rénovation, la porte Miégeville, on a chassé les voitures autour, on a mis en place, on a remis la place en valeur, on a également révélé des fresques médiévales oubliées en nettoyant un mur à l'intérieur de la basilique. Et puis là, nous finissons de rénover ce qu'on appelle le massif occidental, c'est-à-dire la grande entrée monumentale, c'est quelque chose qui était très dégradé depuis très très longtemps. Il a fallu 2 ans et demi de chantier. On a rénové également les enfeux des comtes de Toulouse, donc tout ça a été fait. Et puis, il y avait cette question de la rosace. Parce qu'effectivement, je me suis aperçu, j'avais pas regardé de manière plus attentive que la moyenne des Toulousains, je me suis aperçu que la grande rosace, qui est très grande, fait plus de 25 mètres carrés de cette porte d'entrée monumentale, je ne distinguais pas vraiment ce qu'il y avait derrière.
Elle était cachée par une grande bâche aussi, donc c'était compliqué.
Elle était, depuis les années 60, qu'elle était obturée par quelque chose en plastique. J'avoue que les bras m'en sont tombés quand on m'a expliqué cela, et je pense que les Toulousains ne le savaient pas. Et donc j'ai dit, moi, je ne peux pas rénover ce massif occidental, cette porte monumentale, sans traiter avec un égal niveau de qualité la rosace. Et donc, j'ai déclenché, en accord avec toutes les autorités religieuses, les autorités du patrimoine et de l'État, j'ai déclenché un concours et nous avons choisi un artiste qui est bien connu, Jean-Michel Autoniel, qui est un spécialiste du vert, de la couleur. Et nous avons d'ailleurs décidé à l'unanimité du jury. Et donc le vitrail a été fabriqué, il a été posé ces jours-ci, il est en fin de pose. Et au fond, nous allons corriger l'anomalie, avec certes une création contemporaine, parce que on ne va pas pasticher le passé en 2024, mais une création contemporaine qu'on a sélectionnée au milieu d'autres propositions parce qu'elle avait la caractéristique d'être certes contemporaine, mais de s'insérer de manière harmonieuse et non pas agressive ou en établissant une rupture avec l'ensemble de l'environnement de la basilique Saint-Cernin. Donc nous aurons au lendemain du 29 novembre, au lendemain de la solennité de Saint-Cernin, nous aurons une grande fête, une triple inauguration, le 30, en fin de journée, où, à travers ces œuvres-là, qui sont magnifiques, et tout ce travail de plusieurs années, ben nous rappellerons que Saint-Saturnin est le protecteur de la ville
de Toulouse
depuis des siècles, et qu'il le reste, bien évidemment, aujourd'hui, et que l'écrin de sa basilique doit donc être de plus en plus beau. C'est ma philosophie.
Merci, monsieur Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. Merci pour votre intervention sur Radio Présence ce matin.
Merci.